Bonjour. Il y a une coutume au Liban, quand on rend visite à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un rende la visite, et autant que possible dans la semaine. Les Ronans sont venus chez nous en 1860. Aujourd'hui, je rends visite au Collège de France grâce à mes amis et notamment à Henri Laurence, qui a eu la gentillesse de m'inviter pour vous parler d'une histoire d'amitié qui est extraordinaire, d'amitié qui, dès sa naissance, elle est extraordinaire par sa naissance, par sa continuité et par son aboutissement aujourd'hui, puisque de personnel et familial, elle est devenue en quelque sorte officielle ici au Collège de France. Mon exposé va peut-être à l'encontre de certains écrits qui ont un peu divagué, soit par des explications, soit par manque d'observation, que je vais corriger au fur et à mesure concernant Renan et sa famille quand ils étaient au Liban. En réalité, ce n'est pas le Liban d'aujourd'hui, c'est le Mont Liban. Quand Ernest Renan est venu avec Henriette et Cornélie en 1860. C'était le Mont Liban, c'est-à-dire une partie du Liban qui était à l'époque druze et maronite, qui entourait Beyrouth. Beyrouth ne faisait pas partie du Liban, c'était une wilaya turque. Donc c'est un peu le Liban de l'époque. Alors, vous avez une flèche qui vous indique où est Amchit. Elle est à 40 km de Beyrouth, et à 2 km de Byblos. Elle est sur une colline entourée de deux vallons, avec beaucoup de verdure, et notamment de fruits, d'arbres fruitiers, du mûrier, des figuiers, des oliviers, des grenadiers, et surtout des palmiers. C'est exceptionnel dans cette région d'avoir des palmiers. Ceci est dû au fait que les notables d'Amchit, dont je vais parler, faisaient du commerce avec l'Irak et recevaient des cajots de dattes. Et les palmiers viennent de l'endroit où on jetait les ordures. Ils ont donné des dattes. Et Henriette dit: ces dattes sont mangeables, effectivement, on continue à les manger actuellement. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas vu ces dattiers, c'est Maurice Barrès, puisqu'il a traité Ernest Renan de sacré menteur, puisqu'il parle sous les palmiers d'Amchit. Mais ces palmiers existent depuis l'époque, mais il ne les a pas vus. Donc voilà ce que crie Renan dans Ma sœur Henriette. Notre premier séjour fut le village d'Amchit, à trois quarts d'heure de Jbel Byblos. Actuellement, en cinq minutes, nous sommes entre Amchit et Jbel. À l'époque, c'était à dos de mulet ou à dos d'âne, des trois quarts d'heure. Il y a 25 ou 30 ans, fondé il y a 25 ou 30 ans par le riche maronite Mireille Toubiya, Zachia, l'héritier de Michael, nous rendit ce séjour extrêmement agréable. Il nous donna une jolie maison, d'où l'on dominait Byblos et la mer, la douceur de mœurs des habitants, leurs attentions de tous les jours, l'affection qu'ils conçurent pour nous, et en particulier pour elle, la touchèrent profondément. Elle aimait à revenir à ce village et nous en fîmes, en quelque sorte, notre centre d'action dans toute la région de Byblos. Henriette surnommait Zahia le marquis de Carabas, parce qu'en venant de Beyrouth, à dos d'âne et de mulet, chaque fois qu'elle voyait des vestiges, des aqueducs, elle demandait à qui ça appartenait, on lui disait à Zahia Jaloub. Donc elle l'a appelé marquis de Carabas. Zacharia, qui était Zacharia? D'abord, vous voyez les palmiers. Ils ont plus de 150 ans. C'est des palmiers dattiers. On voit derrière des dattes en haut des palmiers. Voilà Zacharia. Zacharia, c'était le descendant d'une famille très connue au Liban. Ses oncles étaient des commerçants. Ils étaient également des médiateurs au Liban et avec les officiels ottomans. Ils n'avaient pas d'enfants, les deux. Et c'est leur héritier, Zacharia. Et ses deux oncles avaient prévu, par un testament, la création d'un hôpital à Amchit. Il n'y avait pas du tout dans le mont Liban. On est en 1860. Il y avait un hôpital turc à Beyrouth pour soigner les gens gratuitement, sans distinction de race ou de religion. Et il a pour ça prévu le tiers de son patrimoine, en indiquant très bien que ce sera fait en accord avec leur veuve. Ils sont morts, Breil est mort en 1857, Jabour est mort en 1858. Les deux veuves ont avalisé ce testament. Zacharia était chargé de faire la distinction entre ce qui était le tiers et ce qui était les deux tiers, et en même temps de prévoir la construction d'un hôpital. Donc Renan arrive à ce moment-là, c'est-à-dire à un moment où tous ceux qui géraient les terrains, tous les paysans qui s'occupaient des terrains, venaient rendre visite à Zacharia pour délimiter ce qui était le tiers et les deux tiers. Donc, Zacharia reçoit Ernest sur recommandation du patriarche Ernest et Henriette, et très simplement, il les installe dans une maison, dans sa maison, pas dans sa maison familiale, mais dans sa maison de réception. Voilà Zacharia avec sa femme. On remarquerait que la tête, elle est coiffée. Et vous verrez qu'Henriette aussi a une coiffe. C'était l'époque où les femmes portaient des coiffes. Alors, sa femme, Myriam, Zacharia avait 51 ans au moment où Renan est arrivé à Amchit. Je n'ai pas la date de naissance de mon aïeul, parce que dans les arbres généalogiques libanais, on ne met pas la date de naissance des femmes, on met la date de leur mort. Donc elle est décédée en 1884. Et Zacharia est décédée en 1892, la même année que Renan. Alors voilà cet hôpital qui a été construit. En réalité, c'est un hôtel-dieu. C'est le seul en Orient qui a cette forme. Sur les conseils d'un médecin français qui venait de Montpellier, qui s'appelait Henri Barthélémy Clos. Ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord en cloître pour les religieuses, une chapelle qui est attenante, une salle pour dormir le soir, avec une pharmacie et un dispensaire. Il a été commencé en 1863 et terminé en 1892. Voilà, il existe encore et nous continuons, grâce à cette fondation, à soigner les gens gratuitement. Voilà Ernest Renan qui a envoyé cette carte à Zacharia, son ami Zacharia. Zacharia avait 5 enfants. 3 garçons et 2 filles, et la plus jeune s'appelait Rosa, en arabe Wardi, c'est-à-dire la rose, qui a beaucoup circulé avec Henriette, puisque Elle était logée dans la maison qui était à 50 mètres, donc de la maison familiale. Il a mis à disposition d'Ernest et de sa sœur, et de Cornélie ensuite, qui est arrivée en décembre. Il a mis à leur disposition les serviteurs et tous les services pour qu'ils soient bien logés et qu'ils soient bien acclimatés dans le village d'Amchit. Il savait que Renan était un savant et que sa sœur l'accompagnait, le protégeait. Et il a fait, en l'installant dans sa maison, il en a fait un notable. Alors, quel est le rôle d'un notable dans un village au Liban ? Un notable a la maison ouverte continuellement. Il reçoit tous les gens qui viennent sans rendez-vous. Et c'est un lieu où se passe une vie très intense. Parce qu'à l'époque, pas de radio, pas de télévision, pas de communication. Les informations arrivaient par des messagers chez les notables. On sert le café toute la journée, et même une partie de la nuit. Les gens font commerce entre eux, sans s'occuper de l'hôte, qui lui part, revient, mais sa maison est accueillante. Il est le conseiller, il est celui qui tranche les conflits. Il joue un rôle très important. Et il est respecté par tout le monde. Voilà. Alors Renan insiste pour dire que c'est un notable issu du peuple, pour faire la distinction entre certains notables dans certaines régions du Liban qui sont, il dit, contaminés par des faux notables. Voilà. Alors, une réponse à une question que vous ne vous posez pas, c'est que Zahia, qui est un prénom, puisque c'est Zahia Jaloub Kaleb, a donné le nom à la famille. Donc au moment où on a enregistré les noms de famille, notre branche a choisi le nom de Zahia parce qu'il a réalisé cette fondation et d'où on porte son nom, Zahia. Mon père porte le prénom de son grand-père, s'appelle Zahia, mais c'est devenu un nom. C'est fréquent au Liban. C'est comme les gens qui ont dans la famille un prêtre, Khoury. Ils portent le nom de Khoury sans qu'il y ait une parenté entre les différentes familles Khoury. Ernest Renan était quelqu'un de très accommodant. Il était tout pris par son rêve, visiter la Palestine et écrire l'histoire du christianisme. Sa sœur qui était avec lui était très protectrice, elle l'aidait, elle le surveillait. Et c'est une façon qui a été appréciée à Amchit, parce qu'ils se sont retrouvés comme si c'était une famille, comme certaines familles orientales, c'est que la femme est le complémentaire de l'homme, et non pas la concurrente, dans l'égalité. C'est une approche un peu différente de celle qu'on a en Occident. Zahia est allé très loin dans son amitié pour le Renan, puisque quand Henriette est décédée, il l'a fait enterrer dans notre caveau de famille. Donc Renan était très accommodant. Il donnait l'impression qu'il écoutait beaucoup. Dans un village maronite, les prêtres ont un poids qui est très important, parce que ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont fait de la théologie, qui connaissent parfois plusieurs langues. Donc c'est une référence pour les gens sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan culturel. Donc il y a un contact très fréquent. Et l'église était à 50 mètres de la maison. Donc, et comme il y avait des prêtres dans la famille, il y avait ce contact qui était très proche. Pour les Libanais, en tout cas pour la région, Renan paraissait comme un magicien. Pourquoi ? Parce que c'est un archéologue, donc il découvrait, il savait où chercher. Il avait la capacité de donner vie à ce qu'il trouvait, alors que pour les gens, les paysans du coin, qui eux trouvaient les premiers, ce qu'ils trouvaient n'avait de valeur que par rapport à ce que ça leur apportait. Qu'est-ce qu'ils trouvaient ? Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'abord ? Ils cherchaient dans les endroits où il y avait des vestiges. Ils cherchaient le plomb, parce qu'ils faisaient... Il y avait deux emplois pour le plomb, les balles, pour la chasse et pour se tirer dessus quand ils avaient envie, et pour faire des joints entre les barreaux de fer et la pierre. Donc on faisait fondre le plomb et on versait pour faire le joint. La deuxième chose qu'ils cherchaient, c'était le cuivre. Le cuivre était vendu au kilo, parce qu'il servait pour faire des ustensiles de cuisine ou des ustensiles de décoration. Les pierres précieuses, quand ils en trouvaient, ils cherchaient à les vendre ou à les déposer pour avoir de l'argent en échange de les reprendre après. Il restait aussi les pierres. Les pierres, c'était du domaine de propriétaire. Ils savaient qu'il y avait des pierres qui étaient avec des inscriptions ou des pierres taillées qui pouvaient resservir. Voilà en gros pour le paysan qui lui découvre puisqu'il travaille la terre. Et en plus, on sait que la terre bouge et il y a des années où on trouve certaines trouvailles alors que l'année d'avant, il n'y avait rien du tout. Or, Renan, par ses recherches, a en quelque sorte animé une recherche. Et on sait même actuellement, quand un archéologue va sur un terrain, le lendemain, s'il revient, le terrain est fouillé. Parce qu'il sait davantage que les autres cherchaient. En plus, il donnait un sens puisqu'il pouvait dater, il pouvait mettre une date à ce qui a été trouvé. Alors le fait qu'il s'est mis à rechercher les inscriptions, ce va-et-vient des paysans et des gens qui venaient pour... les récoltes également, lui indiquaient des endroits où il pouvait trouver des inscriptions ou des pierres réutilisées. Henriette, voilà, avec sa coiffe bretonne. Elle a gardé l'habitude à Amchit de s'occuper des enfants. Donc les enfants venaient lui faire des cadeaux. Les mères étaient contentes de voir une femme qui s'occupait des enfants. L'enfant au Liban n'est pas du tout comme en Europe. Il est un investissement. Donc il faut s'occuper de l'enfant pour qu'il soit un investissement pour la famille. En Europe, on l'éduque pour qu'il devienne autonome. Ce n'est pas le cas en Orient. Donc le lien entre Henriette et les familles, c'était les enfants. Elle paraissait comme une religieuse, surtout quand elle était à côté de Cornélie. Mais les gens l'aimaient beaucoup. Elle fréquentait les amis de la famille. Elle n'accompagnait pas toujours Renan sur le champ de fouilles, mais elle travaillait sur ce que Renan avait rédigé. Au mois de décembre, Cornélie rejoint Henriette et Ernest et fait la même chose. Elle était très attentive vis-à-vis d'Ernest, ce qui ne plaisait pas toujours à Henriette. Elle les a accompagnés partout où ils ont circulé au Liban. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à cheval ou à dos de mulet. d'après ce que dit Édouard Lecroix, qu'elle aimait beaucoup son mari. Elle a fait un deuxième séjour à Amchit en 1865, accompagnant Ernest. Et paraît-il, c'est elle qui a insisté pour que Henriette reste dans le caveau de la famille. Elle ne voulait pas faire déplaisir à la famille. Ici, j'ai dit un nom, c'est Édouard Lecroix, qui était dessinateur, qui a eu une destinée d'être ministre. Il était caractériel et il aidait beaucoup Renan. Il n'a pas du tout aimé la famille. Pourquoi ? Parce que la famille ne l'a pas logé. Et la famille ne l'a pas logé, pourquoi ? Parce qu'il avait un chien qu'il avait appelé Maroun. Et Maroun, c'est le nom du fondateur des Maronites. Donc il était obligé d'aller loger ailleurs. Voilà. Et dans certaines parties de ses livres, il préférait le port de Byblos. Voilà. Alors, donc, voilà la maison que Zachia habitait. Donc sa maison familiale. Et voilà la maison qui a été mise à la disposition d'Henriette et d'Ernest et de Cornélie. C'est une maison en pierre de taille. Il leur a donné le premier étage. Donc on va monter des escaliers jusqu'au premier étage. Avant de monter, actuellement, il y a une plaque qui indique Ernest Renan, écrivain et philologue français, en mission archéologique au Liban, séjourna avec sa femme Cornélie et sa sœur Henriette dans cette maison propriété de la famille Zachia. C'est ici à Amchit qu'il y trouva la sérénité et l'inspiration nécessaires pour écrire l'une de ses œuvres majeures, La vie de Jésus. C'est ici aussi à Amchit qu'Henriette, décédée en 1861, repose dans le caveau de la famille Zachia, tout près de l'église de ce village qu'elle a tant aimé. Voilà, nous avons pris l'escalier, et voilà l'entrée du premier étage. Voilà le hall central. C'est un hall de grande dimension. Quand on y entre, il a la forme d'une croix grecque, c'est-à-dire de... Il y a des... Non. Il y a des chambres sur les côtés et les diwans, c'est-à-dire les salons. Il y en a trois. Ça, c'est l'est. Il y en a un en face ouest, sud. Et le nord, c'est l'entrée. Ils sont surélevés par rapport au hall central. Du hall central, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la mer Méditerranée, qui est chatoyante de couleurs dans la journée. On voit l'église, toujours avec les palmiers, où Renan allait assister à la messe avec la famille, Renan et Henriette, Cornélie. Voilà l'intérieur de l'église, Saint-Élysée. Et il arrivait à Renan, à Ernest, de monter ici et de lire les livres en syriaque, d'après la tradition. De l'autre côté, on voit la maison de Zachia, et actuellement, c'est devenu le palais présidentiel juste à côté. Voilà, on revient dans le salon, et vous voyez que les lumières du salon change suivant la journée. Là, c'est en fin de journée. C'est une vision du salon, du hall central. Alors, une autre vision. Et voilà la chambre d'Henriette. C'est au sud-est de l'angle sud-est de la maison. Une chambre très simple. D'un côté, elle donnait sur la maison Zachia. Et de l'autre côté, cette fenêtre-là, elle donnait sur Byblos. Voilà la mezzanine de la chambre. Et voilà la chambre, le salon où dormait Renan, Ernest. Pourquoi il dormait ici ? Parce que ce panneau est glissant. Et Henriette pouvait le surveiller ou le voir ou parler avec lui de sa chambre. Quand Cornélie est arrivé, il a changé de lieu. Et voilà la chambre d'Ernest et de Cornélie. Donc c'est la chambre en face. Ça, c'est une vue de la chambre où ils ont été installés tous les deux quand ils ont fait leur accès de paludisme. Alors, une remarque simplement, c'est que il n'y avait pas de lit. Les Libanais ne couchaient pas sur des lits. Et Ernest et Henriette avaient apporté leur lit avec eux. Et quand ils ont écrit à Marcelin Berthelot qui voulait venir au Liban, ils lui disaient « Apportez votre lit avec vous. » Donc, couchés sur des matelas par terre. Voilà, dans le registre de Zaria, ce qu'il a écrit quand Henriette est décédée. Je vais vous le traduire, je ne vous le dirai pas en arabe. Alors, vous remarquez d'abord qu'il y a deux dates. Il y a une date en haut et une date en bas. La première, c'est la date en fonction de l'égire, c'est-à-dire la date orientale. Et la deuxième date, c'est la date occidentale. Donc, il a mis le correspondant des deux. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, le 24 septembre 1861, mourut Rose. Il l'avait baptisée Rose comme sa fille. Sœur de M. Renan, français habitant Paris, et membre du Collège des Savants. Voilà comment il appelait le Collège de France. Collège des Savants. Nous l'avons enterré dans notre caveau. Nous avons signalé cela par trois traits de scie sur sa... mis au-dessus de la tête, dans sa... Ah, je perds la... non. Comment s'appelle le... Elle est enterrée dans un... Oui. Donc, ils ont signalé sur le bois trois traits au niveau de la tête pour se reconnaître que c'est celui d'Henriette. Parce que le caveau, vous verrez tout à l'heure, il est au-dessus de la terre, mais au-dessous, c'est une salle qui est voûtée dans laquelle on met les cercueils. Sur le cercueil, il y avait trois traits. Donc, nous l'avons enterré dans notre caveau le même jour. Renan était malade et sans connaissance. Nous avons appelé des médecins, quatre sont venus. Là, il ne cite que deux, il cite Suquet et Gaillardeau. Les deux autres sont les médecins de la mission, mais qu'ils ne connaissaient pas leur nom. Un bateau était amarré au port de Jbeil. Les médecins ont préféré le transporter à Beyrouth. Nous avons demandé 12 personnes pour le porter sur le bateau à Jbeil. Monsieur Gaillardeau est resté chez nous. Il a assisté à l'enterrement de sa sœur. Après 2 heures, Monsieur Gaillardeau rejoint sa maison à Gazir. Nous avons dépensé pour son enterrement 943 piastres et des pourboires pour les serviteurs, 57 piastres, ce qui fait un total de 1000 piastres. Il a été payé à Tanous Boutros la valeur de ce qui lui a été détruit comme mûrier à Jbeil, soit 300 piastres. Entre parenthèses, les boucles d'oreilles de Rose ont été emportées par Gaillardeau et le lit aussi. On n'a jamais envoyé la facture au Renan. Alors voilà le caveau de la famille. Il y a un conseiller d'État qui est venu au Liban. Il a dit qu'il avait vu le caveau, mais il n'y avait pas de chêne. Vous voyez le chêne, il est à l'intérieur du caveau. Voilà, on voit le chêne qui déborde. Voilà donc, dans ce caveau sont enterrés des membres de la famille, et c'est en dessous qu'il y a le cercueil. En 1925, est arrivé le général Sarraï, qui était le haut commissaire au levant de la France, pour mettre une plaque, parce qu'il n'y avait aucune plaque sur la tombe, pour mettre une plaque indiquant que c'est la tombe d'Henriette Renan. 1965, l'ambassadeur Lufalaise a demandé à mes parents s'ils acceptaient de mettre l'épitaphe que Renan avait rédigée pour sa sœur. La famille avait accepté, il est venu lui-même mettre cette plaque et mettre en même temps une plaque dessous pour dire que c'est lui qui a mis l'épitaphe. Voilà, c'est une épitaphe en latin. Ernest Renan avait demandé si la tradition était de la traduire en arabe, de le faire, mais ça n'a pas été fait. Alors, l'acte de décès à l'église, puisqu'elle a été enterrée par un prêtre de la famille. Cet acte de décès dit, le 24 septembre 1861, est morte Henriette Renan, de nationalité française, sœur du philosophe Ernest Renan. Le décès a eu lieu dans la maison de Zahia Kaleb. Elle a rendu son dernier soupir après avoir reçu les sacrements de l'église des mains du père Ibrahim Kaleb. Son corps a été enterré au milieu d'une grande affluence dans le tombeau Khayl Toubiya Kaleb à Amchit, près de l'église Notre-Dame. Alors, nous avons eu des visiteurs en 1938. Édouard Herriot, président de la Chambre des députés, est venu exprès à Amchit. Il voulait voir deux choses. D'une part, la chambre de Renan, et monter sur la terrasse, parce que c'est là qu'il passait des soirées en admirant les étoiles, en faisant des réflexions sur leurs travaux. Ceci est la lettre du comte Walewski qui remercie la famille Zahia de ce qu'ils ont fait pour la mission en Phénicie. Voilà une lettre d'Ernest Renan qui intervient parce que la tombe, les voisins ont demandé à ce qu'elle soit démolie, sous prétexte qu'il y avait une athée qui était dans une tombe chrétienne. Ils ont écrit au sultan. Les Turcs ont envoyé voir si la tombe était suivant les normes d'hygiène. Ils ont constaté que oui. Ensuite, ils se sont adressés au patriarche. Et le patriarche qui a contacté mon grand-père, mon arrière-grand-père, il lui a dit, il y a une Française qui est athée, qui a été enterrée dans une tombe chrétienne. Il lui a dit, d'abord, elle est bretonne, elle est baptisée, elle est enterrée chrétiennement. C'est notre fille, elle reste dans cette tombe, c'est notre tombe familiale. Voilà. Alors, dans cette lettre, Ernest dit, mon adresse ordinaire, Collège de France. Voilà. Donc, je rends la visite aujourd'hui. Ensuite, Édouard Herriot a passé pour signer les registres à la maison, donc Édouard Herriot, avec sa femme et avec De Martel, qui était le haut commissaire à l'époque, au Liban. Et la signature de Mendès France, en 1940, la signature de René Maheu, directeur de l'UNESCO. Claude Revaud-Dallone, c'est un parent de Renan, un parent par alliance. Michel Gendreau-Massalou, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il y a d'autres qui sont passés, mais qui l'ont marqué différemment. Henri Guiton, Pierre Benoît, des écrivains. Actuellement, nous avons beaucoup d'ambassadeurs qui viennent visiter. Et je termine par ce cyclamen, parce que Ernest Renan et sa sœur avaient une admiration. Ils avaient écrit « Les cyclamens, surtout feuilles et fleurs, sont des chefs-d'œuvre à vous faire tomber en extase. » Voilà, je vous laisse tomber en extase en attendant de vous voir au Liban et de vous accueillir dignement. Voilà.